Donc, je vous remercie. Bonjour à tous. On va passer la première partie de la matinée en Bretagne, effectivement, donc sur le périmètre de la zone atelier Brest-Iroise et un peu plus largement, avec un travail qui s'intéresse au suivi des trajectoires de vulnérabilité face aux risques côtiers d'érosion et de submersion marine, et plus particulièrement la mise en place d'un observatoire, hein, avec une approche de co-construction qui consiste à travailler étroitement entre scientifiques et gestionnaires des territoires. Donc, c'est un travail interdisciplinaire qui a réuni une large équipe de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et d'ingénieurs, dont je fais partie, sous la coordination d'Alain Hénaff. La diapositive suivante. Donc, la présentation comportera trois points. Le premier point sur le concept de vulnérabilité globale ou systémique pour prendre en compte la problématique des risques côtiers d'érosion et de submersion. Au-delà de ce concept, dans un deuxième temps, le fait de s'intéresser à l'évolution des composantes individuels qui contribuent à la vulnérabilité et donc qui contribuent à l'évolution de cette vulnérabilité dans le temps et dans l'espace. Et enfin, un troisième point donc sur la co-construction de cet observatoire intégré des risques côtiers. Donc sur cette diapo, je vais tout de suite passer au schéma qui est en bas à droite. Le risque typiquement, classiquement, c'est le croisement entre des aléas et des enjeux. Les aléas, ce sont des phénomènes naturels, pas uniquement naturels, on le verra ici. Donc, on s'intéresse à l'érosion côtière, à la submersion marine et aussi à la migration des dunes côtières. Les enjeux, c'est tout simplement ce qu'on a à perdre. Donc, s'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de risque. S'il n'y a pas d'aléa, il n'y a pas de risque. C'est le croisement des deux qui constitue le risque. Maintenant, pour appréhender la vulnérabilité du territoire, ces deux composantes qui donc contribuent à accroître la vulnérabilité ne sont pas les seules à prendre en compte. Il faut aussi prendre en compte la manière dont ces risques côtiers sont gérés par les pouvoirs publics, à la fois en termes d'aménagement physique sur le littoral et aussi toutes les procédures législatives, tous les dispositifs qui existent pour gérer les risques. Et enfin, la quatrième composante, c'est celle des représentations sociales, c'est-à-dire la manière dont les gens pensent, une sorte de conscience collective face aux risques côtiers, un petit peu la résilience ou l'adaptabilité des populations. Et donc, en fait, dans cette approche globale, on combine les facteurs conjoncturels et les facteurs structurels. Et on sort du paradigme qui consiste à considérer d'un côté ce qui concerne l'aléa, c'est-à-dire les sciences naturelles, et tout ce qui concernerait les sciences humaines d'un autre côté. Et on les intègre dans une réflexion unique, en fait. Et donc, ce travail-là de nécessité en fait d'avoir une approche globale et systémique, en fait, c'est le résultat de nombreux projets de recherche, hein, qui ont été réalisés à l'UBO depuis les années 2000, hein, si on remonte aux projets initiaux, et donc qui aboutit à un besoin de cette approche globale pour traiter le problème de la vulnérabilité des territoires face aux risques côtiers en prenant en compte les quatre composantes. Donc, ces conclusions-là, eh ben, s'appuient sur différents constats. D'abord, concernant les aléas, on est sur une tendance généralisée au recul du trait de côte, hein, qu'on soit à l'échelle mondiale ou aux échelles locales. 75 à 80% des côtes sont des côtes à falaises qui paraissent sans recul. Et pour ce qui est des côtes sableuse. Au niveau mondial, les deux tiers des littoraux d'accumulation sont aussi en recul. Et parfois, les aléas naturels sont fortement liés à l'anthropisation des littoraux qui vient aggraver les processus d'érosion. Donc, on constate que aléas et gestion sont étroitement liés. On est aussi dans un contexte contemporain qui favorise cette tendance à l'érosion et qui favorise aussi la survenue de submersion marine parce que le stock de sédiments qui constituent les estrans sableux et le prisme sédimentaire côtier et d'avant-côte, ce sont des stocks reliques qui ne sont que très faiblement renouvelés, qui sont souvent exploités à la fois à terre et en mer. Donc là encore, on voit que la gestion que l'on a des territoires va venir impacter les aléas. On est aussi avec le changement global dans des conditions d'amplification très probables à la fois de l'intensité et de la fréquence des événements extrêmes qui sont cause de processus d'érosion et de submersion, et avec une accélération hein, qui est légère de la remontée du niveau marin, donc qui vient aggraver en fait un aléa existant. Alors, bien sûr, à cela s'ajoute la littoralisation de l'anthropisation de nos territoires côtiers avec la littoralisation des populations. Donc, je répète, le risque, c'est vraiment le croisement des aléas et des enjeux. Et on voit que pour ce qui concerne la gestion, alors qu'on est sur une doctrine nationale et des principes qui sont assez clairement établis, notamment dans la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, qui pousse plutôt à limiter la mise en place d'ouvrages de lutte contre la mer. On n'est plus dans une configuration où on cherche à empêcher l'érosion, on est plutôt dans une configuration où on cherche à limiter les impacts en repliant en fait, en relocalisant les enjeux. Mais la réaction des élus de terrain, un petit peu en lien avec la pression des riverains, et puis aussi par habitude, hein, en fait, c'est de ne pas céder et de maintenir tous les ouvrages qui ont été mis en place, donc de procéder à des réparations. Et donc, même parfois avec des gestionnaires avec lesquels on a l'impression qu'il y a une assez bonne compréhension des processus, et bien on constate que suite à des tempêtes importantes, la réponse en urgence qui est apportée, c'est celle de protéger, renforcer les ouvrages. Et en ce qui concerne la composante représentation, et bien les populations qui s'approprient le territoire qu'elles occupent, en fait, soit parce qu'il y a une forme de non-acceptation du risque ou de non-acceptation de l'existence du risque ou un défaut de mémoire collective, on a tendance à oublier rapidement, ou il y a beaucoup de raisons qui font que, en tout cas, on constate que, il y a une résistance assez forte des populations à accepter que le trait de côte, c'est quelque chose qui évolue. Donc tout cela nous amène à constater que, eh bien, on a besoin de s'intéresser aux quatre composantes de la vulnérabilité systémique des territoires littoraux pour bien comprendre les risques et être à même d'apporter une réponse à cette demande des gestionnaires, mais de la société de manière plus générale, d'établir un diagnostic et d'apporter une aide à la décision pour la mise en place de stratégies de gestion des risques. Alors, je vais maintenant passer à la deuxième partie de la présentation où je vais vous parler en fait au-delà de ce diagnostic qu'on peut établir à un temps T, en fait, la vulnérabilité évolue dans le temps et dans l'espace. Donc, on a intérêt à suivre ces quatre composantes dans le temps et dans l'espace. Donc, je vais commencer par les aléas. On voit qu'à des échelles de temps très longues, là, c'est la petite vignette en haut à gauche où on a un dépôt de tempête dans un enregistrement stratigraphique, hein, dans un front de dune, qui atteste donc qu'à des échelles centennales ou plus, eh ben, il y a effectivement des épisodes extrêmes qui nous indiquent que le trait de côte a bougé. Et puis à des échelles historiques aussi, on voit en fait qu'il y a une évolution dans l'intensité de l'aléa, hein, du recul du trait de côte par exemple, ou de l'ampleur des épisodes de submersion. Et à l'échelle contemporaine, eh ben, on a des outils maintenant pour suivre l'évolution du trait de côte. Hein. C'est l'exemple de la troisième vignette avec le suivi de l'érosion à l'île de Sein, Et la quatrième vignette, là, on est dans la temporalité de l'événement lui-même. Donc le premier des deux schémas horizontaux là indique en fait une variabilité temporelle dans le nombre d'événements tempétueux qui vont créer de l'endommagement sur les côtes ou des impacts sur les côtes. On voit qu'il y a une variabilité dans la magnitude des événements et on voit qu'il y a une variabilité spatiale aussi. Si on prend plusieurs tempêtes et qu'on constate, ce sont les trois petites cartes en bas à droite, la répartition géographique, surtout de linéaire breton, entre une tempête et une autre n'est pas la même. Donc il y a un intérêt à suivre dans le temps la variabilité et dans l'espace de cet aléa. Si on passe aux enjeux, on est sur une dynamique générale de littoralisation. On est sur un accroissement de l'urbanisation. Donc là, c'est l'exemple de l'île de Sein, avec des cartes en remontant assez loin, le cadastre et jusqu'aux photos aériennes actuelles, où on voit une extension des zones urbaines. En plus de cette tendance générale, on voit qu'il y a des phases d'accélération, de colonisation du littoral, et puis il y a des phases où ça stagne, ou même il y a des régressions. Hein, parfois, il y a des portions de territoires urbanisés qui sont abandonnées. La même démonstration vaut pour la composante gestion, où que ce soit pour la mise en place d'ouvrages, hein, par exemple, là, on est sur le polder Cambrite-Île-Tudy, où il y a eu plus d'une dizaine d'opérations d'aménagement qui ont été mises en place, donc de gestion physique du problème de risque côtier. Et au plan législatif, il y a toute une panoplie de dispositifs hein, qui ont été mis en place depuis la loi littorale, les PPR, trois générations de PAPI, donc beaucoup d'outils qui s'emboîtent, qui s'imbriquent et qui vont modifier la manière dont on gère les risques et l'efficacité avec laquelle on gère les risques. Au niveau des représentations, on sait que si on peut résumer ça sous forme de quelle est la valeur que les gens accordent au littoral, eh ben, c'est quelque chose qui a évolué dans le temps long. Et si on regarde maintenant le temps plus court, en fonction de la manière dont on communique dans les médias sur certains événements, par exemple, à chaque fois qu'il y a une marée de vives eaux, on parle de marée du siècle. Parfois à raison, parfois à tort, et on s'aperçoit que parfois, pour des événements d'intensité comparable, hein, on peut avoir beaucoup de bruit dans la presse, et donc une attention ou une conscience plus importante, et puis parfois moins. Il ne se passe rien dans la presse, il n'y a pas d'information. Donc on voit que la manière dont les gens pensent les risques côtiers est aussi quelque chose qui évolue, la mémoire du risque a tendance à être un peu courte parfois. Donc, comprendre l'évolution de la vulnérabilité demande à comprendre l'évolution de chacune de ces composantes individuelles. Là, le schéma ici représente une évolution fictive pour chacune de ces quatre composantes qui, en combinant les composantes, aboutit à une évolution de la vulnérabilité systémique. Et donc, pour un territoire, on peut établir une trajectoire d'évolution de cette vulnérabilité. Donc maintenant, on passe aux deux projets, OSIRISC et OSIRISC Plus, qui ont été financés respectivement par la Fondation de France et par l'Adréal Bretagne via une convention de recherche pour donc l'opérationnalisation de la méthode développée dans le premier des deux projets. Donc cinq laboratoires sont impliqués en sciences humaines et en sciences de l'environnement, environ une vingtaine de collègues ont travaillé sur ce projet qui visait donc à développer une méthodologie pour la mise en œuvre d'un observatoire intégré pour le suivi de la vulnérabilité au risque côtier d'érosion et de submersion et tester sa mise en œuvre sur des territoires ateliers. Il s'agissait bien à la fois d'un double objectif scientifique d'établir un suivi pérennisé avec une méthode reproductible qui donne une vision interdisciplinaire des risques côtiers et d'un intérêt appliqué de proposer un outil d'aide à la décision à l'usage des gestionnaires. Alors, suivre dans le temps les aléas, on voit comment on peut faire. Il y a des méthodes de mesure éprouvées avec des niveaux de technicité différents et on peut transformer les données brutes comme le suivi du trait de côte ou le suivi d'un profil de plage en un indicateur, hein. Tout un taux de recul, par exemple, pour la submersion marine en une fréquence ou une hauteur de submersion. Maintenant, quelles sont les métriques qu'on peut mettre en œuvre pour élaborer des indicateurs qui nous renseignent sur les enjeux, la gestion et, encore plus compliqué, pour les représentations? Il s'agit en fait d'établir un observatoire des pensées, si c'est possible. Donc, le projet Osiris, il était fondé sur trois points, sur la définition et la mise en œuvre d'indicateurs, sur une approche de co-construction entre praticiens et chercheurs et sur l'idée à terme de pouvoir pérenniser cet observatoire. Donc, les indicateurs, ils sont définis à partir de métriques. C'est des indicateurs qui doivent être applicables partout. Parfois, on en a qui existent, parfois, il faut les inventer. Se pose la question de la spatialisation de cette mesure, sur quel territoire, à quelle échelle, avec quelle granularité on va représenter ces indicateurs et de la fréquence des observations que l'on doit réaliser pour les renseigner. Cette diapo qui est un petit peu chargée parle un petit peu des méthodes et des outils qu'on a mis en place. À gauche, on indique en fait le cheminement où on part de la mesure initiale de base, l'enquête ou la mesure. J'avais dit par exemple l'exemple du suivi du trait de côte. On obtient des variables, un recul, un volume perdu pour l'érosion de falaise par exemple, et on transforme ça en indicateur. Tout le taux de recul par exemple pour l'indicateur d'aléa. Ensuite, ces indicateurs qui eux-mêmes donc agrègent un certain nombre d'informations de suivi peuvent être eux-mêmes croisés, combinés pour aboutir à des indices à l'intérieur d'une composante hein, qui concerne des indicateurs pour une même composante. Ça peut aussi être des indices qui croisent différents indicateurs dans différentes composantes, mais qui se regroupent au sein autour d'un même thème, et enfin des indices de vulnérabilité globale. Pour choisir, pour élaborer ces indicateurs, on a fait de nombreux allers-retours entre gestionnaires et chercheurs. On a passé plusieurs filtres pour établir en fait la pertinence de l'indicateur. La pertinence, ça veut dire est-ce qu'il nous renseigne sur la vulnérabilité? Est-ce qu'on est capable de dire eh ben, quand ça augmente, ça rend le territoire plus vulnérable ou moins vulnérable? On a aussi travaillé sur la faisabilité technique en fonction des compétences, des ressources disponibles pour pouvoir renseigner cet indicateur régulièrement au fur et à mesure du temps. On a essayé d'avoir une démarche qui menait à aboutir à des indicateurs homogènes d'une classe à l'autre, de manière d'une composante à l'autre, de manière à pouvoir les agréger. Et donc, ça nous a mené à ce besoin de calibrer les indicateurs. On a choisi une échelle de 5 valeurs, de très faible à très fort. Pour les aléas, plus l'indicateur est fort, plus on va vers une vulnérabilité accrue. Par contre, pour les enjeux, c'est pareil. Par contre, pour la gestion, plus l'indicateur est fort, indicateur d'une bonne gestion, plus on réduit la vulnérabilité. C'était un petit peu la même idée qu'on se faisait pour la composante de représentation, et finalement, il s'est avéré difficile d'associer aux indicateurs de représentation une cotation qui aille dans le sens de plus ou moins de vulnérabilité, parce qu'on ne sait pas, par exemple, si une meilleure connaissance des risques côtiers va amener les gens à des comportements plus prudents face aux risques côtiers, et donc va amener à plus ou moins de vulnérabilité des populations face à ces risques. Et s'est posé aussi la question de la granularité pour laquelle il fallait choisir une maille sur laquelle représenter spatialement ces indicateurs à partir de données qui peuvent être sous différents formats et à différentes échelles spatiales, de données ponctuelles, linéaires ou sur des territoires importants. Au final, on est arrivé à 54 indicateurs, donc dans nos quatre composantes, des indicateurs qui individuellement ne sont pas des indicateurs de vulnérabilité, mais qui, lorsqu'on les agrège ensemble, contribuent à indiquer la vulnérabilité plus ou moins forte du territoire. Donc, pour chaque indicateur, il y a des fiches descriptives qui indiquent les données utilisées, qui sont en source de cet indicateur, qui sont transformées en indicateurs. Il y a des protocoles d'acquisition pour ces données et un protocole qui permet de passer de la donnée brute à la donnée calibrée sur 5 niveaux. Donc là, je donne quelques exemples pour des données sur les enjeux. Donc le nombre de travailleurs, le pourcentage de personnes vulnérables, sont des données chiffrées qui sont converties. Ce sont les cartes en échelle de rouge et orange sur cinq niveaux d'indicateurs. Ensuite, on peut croiser ces indicateurs en indices. Et enfin, on peut visualiser, que ce soit indicateur ou indice, sur un visualiseur qui est en fait une interface web SIG à l'échelle des communautés de communes et des communes. Donc sur cette diapo-là, je vais donner l'exemple de la commune de Locmariaquer, qui est donc l'une des communes du parc naturel régional du golfe du Morbihan, où on montre en fait la donnée aléa, érosion et submersion combinée. C'est en haut à gauche avec donc une échelle de cet indicateur d'aléa qui va de 1 à 5, 5 étant un aléa fort. Les enjeux, où là on a en fait regroupé différents enjeux. Donc là c'est l'indicateur pour la composante enjeu en prenant en compte population, bâti, les réseaux. Et donc, on obtient cette carte-là. Et lorsqu'on croise les deux, on arrive à une carte de l'indice de risque. Donc, c'est en bas à droite. Et avec un croisement où les indicateurs de composantes sont sur une échelle de 1 à 5. Et pour croiser aléas et enjeux, on arrive aussi à une échelle d'un indice de risque qui est entre 1 et 5.
Nous avons un peu
Bien entendu,
dépassé
pour
le temps
les
déjà.
2 minutes, merci. Je vais passer à la diapositive suivante. Pour les composants de représentation et gestion, comme les indicateurs de gestion n'ont pas ont une emprise spatiale qui est celle de la commune, on a opté pour une représentation avec un diagramme en roue avec des rayons qui indiquent l'intensité l'indicateur ou des diagrammes en toile d'araignée pour les indicateurs de représentation. Au final, on a donc un observatoire qui est fondé sur un travail de co-construction entre chercheurs et gestionnaires où les risques côtiers sont abordés donc avec ces deux groupes d'observateurs-là qui ont des objectifs différents, des objectifs de recherche et des objectifs de gestion qui les amènent à s'intéresser à ces quatre observables, à ces quatre composantes, à les représenter sous forme d'indicateurs et d'indices. C'est l'Observatoire OSIRISC. C'est un outil qui va nous permettre de travailler, d'analyser les trajectoires de vulnérabilité et qui permettra aux élus d'améliorer la mise en œuvre des stratégies de gestion, puisque la gestion, c'est vraiment le seul levier que l'on ait pour réduire la vulnérabilité face aux risques côtiers. Et on espère impliquer les citoyens dans la collecte de données, mais aussi par la sensibilisation amenée à une meilleure compréhension et acceptation des politiques de gestion. Pour ces quatre composantes, on a un fort besoin de mesures. Certaines font appel à différents niveaux de technicité. Pour certaines, enjeux et gestion, on fait appel à des bases de données existantes. Pour les aléas, on s'appuie sur l'accompagnement des territoires pour qu'eux-mêmes développent la compétence pour acquérir les données qui vont venir nourrir l'observatoire. Et pour les représentations sociales, on s'oriente vers un même fonctionnement où les gestionnaires nous aident à obtenir des enquêtes qui sont assez difficiles à obtenir, les taux de réponse sont souvent faibles et l'analyse se fera avec des collègues sociologues impliqués dans le projet. Donc là, on a une carte qui représente les points de mesure pour les aléas. Donc c'est des mesures collaboratives, certains réalisés par les universitaires et d'autres par d'autres organismes, et comme je disais, pour les autres composantes et aussi pour les aléas. Donc, on s'appuie sur les territoires pilotes qui ont participé à la démarche jusqu'à maintenant, donc la zone atelier Brest-Iroise et d'autres EPCI en Finistère et en Bretagne. Et comme je le disais, c'est illustré à droite. Pour la mise en œuvre des mesures, il y a un fort travail d'accompagnement qui nous permet de former les gestionnaires, de former des groupes d'étudiants, de former des associations à l'acquisition de mesures sur leur territoire. Et au final, on en est maintenant à une étape où l'Observatoire OSIRISC est adhérent au RNOTC, le Réseau national des observatoires du trait de côte, c'était la dernière façade régionale qui n'avait pas d'observatoire des risques côtiers, d'érosion et de submersion. Et donc, on espère de cette manière-là dépasser le stade où on n'avait que des sites finalement très limités, où on ne s'intéressait qu'à des zones à fort enjeu ou à fort aléa, pour avoir une observation spatialisée à l'échelle de toute la région. Et on espère pouvoir eh ben, reproduire le modèle qui est en place depuis 2 ans maintenant en Finistère et qui a fait intervenir plusieurs partenaires, le Conseil départemental du Finistère, le CEREMA et l'UBO, où il y a non seulement la composante mise en place de l'observatoire pour l'observation, la connaissance, mais il y a aussi une forte composante d'accompagnement des territoires et des gestionnaires avec de l'animation, de la sensibilisation et de la formation, et parfois un apport d'expertise sur des outils, sur des problématiques très particulières.
Je suis désolé, mais il faut, nous avons vraiment atteint le temps là.